Salon privé, 21h, 23h, tous les lundis sur Fusion. Fusion, c'est deux fréquences, 95.3 et 103.2. Catherine Conconne, tu vas participer au choix du drapeau et de l'hymne ?
Non, pas du tout. Je ne peux pas comprendre. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Je ne peux pas comprendre. Je vous dis que ce pays est gouverné en mode 59+1, qu'il y ait un concours pour désigner hymne et drapeau pour la Martinique, et que dans le règlement du concours, on dise que la décision revient au président du conseil exécutif. Je ne vois pas comment ce monsieur est habilité à choisir un drapeau pour moi. Donc pour moi, ça ne tient pas la route. Nous avons nos couleurs que nous portons depuis très longtemps, qui ont été l'objet de luttes depuis plus d'un siècle, qui ont été très fortes au moment où ce peuple est en souffrance, qu'on a brandi à des moments. Moi, je suis rouge, vert, noir.
Et l'hymne, tu en penses quoi ?
Ah, il y a tellement d'hymnes possibles, il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire, mais non. Que ce soit ce monsieur qui décide de mon hymne et de mon drapeau pour mon pays, moi je dis niet. Pour choisir la plus belle musique du monde, je n'ai rien contre la création artistique et le respect qu'on doit à cet artiste et à cette initiative, mais la manière de dérouler ce
concours... Comment tu expliques la démarche ?
C'est du Marie-Jeanne. En tant que pilotin, je suppose que tu en sais quelque chose, c'est du Marie-Jeanne. Voilà. Voilà.
Ben bon, on va attendre. J'en perds mon...
Ton latin.
Alors, tu es femme politique, mais tu es aussi femme avant tout.
Oui.
Avec tes goûts, tes passions. Mm-hmm. Passion musique.
Oui.
Beaucoup.
Oui, j'aime beaucoup la musique. Je chante sous ma douche. J'aime la musique. J'écoute tout le temps de la musique. J'aime beaucoup la musique martiniquaise. Je trouve qu'on a des trésors de créativité. Comment imaginer et plus largement la musique caribéenne. Et je rends hommage d'ailleurs aux frères Pastel qui nous ont tellement familiarisés avec ce qui se faisait à côté. Vous avez fait de la coopération caribéenne avant même que ce ne soit institué comme politique publique et comme élément de notre quotidien. Quand vous prenez de Cuba à Trinidad, comment imaginer que 40 millions de personnes qui ont vécu une telle histoire, qui ont été tellement contraints par l'esclavage, par des discriminations, par la pauvreté souvent, aient pu sortir une telle gamme de musique différente, que l'on prenne le son Cuba, la salsa, le reggae jamaïcain, le calypso trinidadien, le zouk, le bouillon, le soca, etc. Et qu'on ait une telle concentration de genres musicaux sur un si petit espace, je pense qu'on ne se rend pas compte d'une telle richesse. Donc moi j'adore, j'écoute du reggae, j'écoute de la salsa, j'écoute du son cubain, j'écoute du calypso, j'écoute de tout. Cette musique caribéenne m'habite énormément. Et quand on reprend, quand on voit tout ce qui s'est fait à la Martinique, c'est magnifique. C'est magnifique cet apport haïtien qu'on a eu. Haïti, c'est nous aussi. C'est un pays qui est très proche de nous, qui a une histoire que nous partageons, qui parle français, qui parle créole comme nous. Et quand on voit ce qui se fait en production haïtienne, quand on voit ce qui se fait avec tous les Jamaïcains, ce qu'ils ont pu sortir d'avant-gardistes, Enrique, Bob Marley, quand on voit tout ce qui se fait, continue de se faire à Cuba, des gens qui ont fait le tour du monde avec leur musique, comme le Buena Vista Social Club, la Fania All Stars que j'ai vu gamine au Stade Louis Achille. J'ai vu Celia Cruz comme ça, 3 mètres de moi, jeune, c'était quelque chose de fantastique. Et donc, je suis vraiment ramenée à la Martinique. Quelle créativité! Quand on prend tout ce qui se fait en biguine, en mazurka, le zouk qui est venu après avec Kassa, avec tout, c'est fabuleux. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin.
Tu avais créé un événement en carnaval,
ouais.
Le Grand Chaillé, c'était ça ?
Le Grand Chaoua.
Le Grand Chaoua.
Ouais.
Le Grand Chaoua. Alors ?
Alors, on a fait 4 ans déjà de Grand Chaoua. Alors, ce n'est pas évident parce que c'est une petite association qui a été montée comme ça. Parce qu'un jour, en rencontrant Jean-Claude Nemo, on s'est dit... Jean-Claude Nemo me dit, tu sais qu'on avait fait un vidéo à Fort-de-France, je ne me rappelais même pas de ça.
Avec RCI.
Oui, c'est vrai, je ne me rappelais pas. C'est quand il m'a montré les photos du char et tout, avec RCI qui est toujours très à l'avant-garde en matière d'animation culturelle. Et si on recommençait, j'ai dit, ah bon, ben d'accord, on y va. je n'ai pas de structure, je n'avais rien. On a monté une association comme ça rapidement avec 2-3 copains. J'ai vu des sponsors. C'est une manifestation qui a été financée à 80% par des sponsors privés. Où je décrochais mon téléphone, j'appelais mes copains, quoi. J'appelais Gilles Filet à l'époque qui dirigeait le Bacoua. Je dis, Gilles, il faut que tu me donnes 5 chambres. D'accord, qu'est-ce que tu veux? J'appelais mes copains de Hertz en leur disant, on a besoin de 3-4 voitures. D'accord, c'est bon. D'autres qui m'ont donné un peu d'argent et tout pour payer le char, pour payer ci, pour essayer de décorer. Et puis, quand ça avait venu, et nous, on ne s'attendait pas, quoi. On était une dizaine à travailler. Et puis, quand on est parti de là, on s'est dit, bon, ouais, les gens vont venir, peut-être pas beaucoup. Et quand on a quitté, parce que là aussi, le directeur du port, Jean-Rémy Villageois, qui est un ami, quand je lui ai dit, bon, Jean-Rémy, il faut que tu me prêtes un bout du port, là, pour qu'on garde le char, il m'a dit, il n'y a pas de problème, il nous a prêté une salle pour que les musiciens s'habillent, que les musiciens... On a eu vraiment une adhésion pas possible de copains, de relations. C'est parti comme ça, on n'a pas gagné 5 centimes, au contraire, on a mis notre argent, notre temps, notre essence à monter, descendre et tout. Et quand on est sorti du port et quand on est arrivé devant France Antilles...
C'était monstrueux.
Et moi, j'ai dit aux copines qui sont avec moi, mes copines, ma sœur et tout, je dis, attends, c'est pour nous? C'est pour qu'elles savent que ces gens-là sont là? Non, c'est un vidé. Et tout le monde, on se regarde, on dit, ah, c'est ça, c'est pour nous. On était débordés. On a dû faire le service dans nous-mêmes, on se tenait par la main pour éviter que les gens n'aillent trop près des roues du camion. J'ai appelé des copains pendant le vidé, que des costauds, que des amis, en disant, rejoignez-nous, on a besoin d'aide, on a besoin d'hommes pour nous aider et tout. On a fait quelque chose de fabuleux. Le lendemain, mercredi, on a voulu donner place à la tradition. Donc, j'avais appelé Guy Vadeleux pour lui dire de monter un Big Bon. On a fait une super vidéo. On s'est arrêté devant le Fort Saint-Louis. Mercredi, décembre, on a dansé sur ces pommes maigres. Où j'ai vu des jeunes de 14-15 ans qui dansaient avec des mamies qui ont plus de 70 ans et qui apprenaient à danser la mazouk comme ça dans la rue. C'était tellement fabuleux. On a recommencé l'année d'après. On a fait venir Tabou Kombo jusqu'à Choubou avec Jocelyn Vautour, qui est entre autres mon cousin, Fanfan, etc. On s'est dit, ah non, qu'est-ce là comme tabou dans les rues. Ça va être une belle nostalgie. Tabou a mis le feu, pareil. Mais à chaque fois, on fait ça nous-mêmes, quoi, sans moyens, sans rien du tout. Et bon, c'est du boulot, hein. C'est du boulot. Donc, je me tâte encore pour cette année.
Et puisque tu as prononcé son nom à Jocelyn, qu'as-tu pensé de sa vidéo et son avis sur la musique martiniquaise? Est-ce que tu partages totalement, en partie ou pas du tout?
Je partage et je crois que on a gagné à écouter ce que Jocelyn dit. Bon, il a son genre, il a sa manière. On est un peu comme ça dans la famille, on dit les choses très franchement. Jocelyn, c'est mon cousin, il a toujours été comme ça, il cache pas sa grande gueule, il l'affirme, mais quand il dit quelque chose souvent, avec le recul, on se rend compte qu'il a raison. Alors, il le dit brutalement, il le dit avec ses mots, juste là, son vocabulaire, hein, il va dire, ouais, au lieu de dire des gens qui font rien, il va dire des branleurs, donc ça va choquer tout le monde, mais bon, si on fait pas attention, on n'est pas préoccupé en permanence par la forme, on se rend compte qu'au fond, ce qu'il dit, c'est pas faux. Il a parlé de la création qu'il y a autour de la musique haïtienne, qu'on a tendance aujourd'hui à dire, ouais, les Haïtiens, nanana. Désolé, on a un apport haïtien au quotidien. Ils se sont mis au zouk compas dernièrement, et c'est ça qui nous a fait danser pendant les vacances. Désolé, c'était harmonique, c'était vibe, c'était caille, c'était tous ces morceaux-là. On a tous les mélodies en tête. Ça a été repris par tous les orchestres de Martinique. Je suis allé en Haïti. Il y a une créativité extraordinaire dans ce pays-là. C'est vrai que la misère vous fait être meilleur, être plus combatif, être plus... Bon, Haïti, c'est un pays d'art. Hein. Ça peint partout. Il y a des peintres partout. Il y a des forgerons, des gens qui font des trucs, mais extraordinaires. Un artisanat d'art bouillonnant à tous les niveaux. Et la musique qui est présente partout. Présente partout. Je suis allée écouter à l'Alliance française des jeunes artistes haïtiens qui chantaient, qui jouaient de la musique. Et il y avait tout de suite, comme c'est un pays très peuplé, quand je me suis retournée pour regarder la salle, il y avait plus de 1000 personnes dans une cour en plein néant. Les gens chantaient, les gens dansaient. Donc il y a un bouillonnement musical qu'on ne retrouve malheureusement plus ici. Quand il y a un concert quelque part, il faut presque flatter les gens et leur donner des invitations pour qu'ils viennent, malheureusement. Mais non, Jocelyn, bon, il a dit ce qu'il avait à dire, et puis bon, il assume ses propos, et que chacun assume ses propos. C'est peut-être une manière de remettre les gens en cause, qu'ils se regardent, et puis qu'on arrête peut-être de se complaire dans une suffisance.
Un de tes autres combats, c'est de faire revenir au pays ceux qui sont partis, et singulièrement les jeunes.
Oui. faut repeupler la Martinique par tous les moyens. On vit un vrai drame. Si on continue comme ça, dans 20 ans, il n'y a plus de Martinique.
Attention, hein, par tous les moyens.
Oui, y compris pousser les femmes à faire plus d'enfants.
Oui.
Oui, c'est, ça fait partie
des... Il y a un autre moyen, c'est de faire venir des gens qui ne sont pas de Martinique.
Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais on a...
Il ne faut pas qu'on se perde là-dedans.
Il ne faut pas qu'on se perde, mais on va se perdre si on est... il n'y a plus de Martinique. Hein. Les gens ont tendance à peut-être à minorer le problème, mais si on ne prend pas des mesures, et c'est pourquoi je suis vent debout sur cette mesure, et le président de la République devrait faire des annonces là, le 1er février, parce qu'il a reçu mes dossiers, j'ai eu des séances de travail avec la ministre déjà, s'il n'y a pas des décisions qui sont prises, j'ai proposé 20 fiches actions, 20 fiches actions, faire revenir les jeunes, c'est une des actions, mais il n'y a pas que ça, il faut booster la natalité, pousser les femmes à faire un troisième enfant, un deuxième enfant. Ma mère a eu 3 enfants, moi j'en ai eu qu'une. Donc on voit tout de suite qu'il y a une différence. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 1 enfant, qui hésitent à faire un deuxième. Il y a des gens qui ont 2 enfants, qui hésitent à faire un troisième. Il faut peut-être créer les conditions pour favoriser le deuxième ou le troisième enfant. On est passé de 400 000 habitants environ il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est sous la barre des 370 000 habitants. Autrement dit, on a perdu plus de 30 000 habitants en 10 ans. On a perdu 30 000 élèves dans les écoles en 10 ans. Sur une population de plus de 100 000 enfants scolarisés, eh bien on est aujourd'hui à 70 000.
Quelles perspectives d'avenir pourrions-nous offrir à nos jeunes afin de les garder au pays ?
Pour savoir de quoi on parle, parce que j'aime bien savoir de quoi je parle et éviter d'être dans les a priori, ce que disent les gens, on a lancé une enquête via les réseaux sociaux, une enquête très bien bâtie avec des spécialistes, des sociologues, des démographes, chapeautée par l'ancien directeur de l'INSEE, qui sait de quoi il parle, qui a été le premier d'ailleurs, Georges Barra, à nous alerter sur ce problème de démographie. Et on s'est rendu compte, on a posé des questions aux jeunes qui ne sont pas là. On a posé à ceux qui sont rentrés, 25%, on a réservé 25% à ceux qui sont rentrés pour connaître leur rendu, comment ils sentent les choses. Mais on a aussi posé des questions à ceux qui sont là-bas. Et on s'est rendu compte que 8 sur 10 veulent rentrer à la Martinique. Le truc qui consiste à dire « yo pati, yo pas les virer », non. Et le premier sujet qui peut les attirer en Martinique, c'est revenir auprès de leur famille. Avant même l'emploi. Alors c'est vrai qu'on a un problème ici, on a un petit marché, on a un taux de chômage élevé, mais il y a aussi, de manière tout à fait paradoxale, des postes qu'on n'arrive pas à pourvoir localement. Le 16 juillet de cette année, on a organisé une manifestation à Madiana, qu'on a appelé ça « On nous vire et on nous était », toujours sur le thème de « aller virer ». On a fait venir, il y avait près de 400 personnes présentes, la salle était pleine, des gens assis partout, dans les escaliers, partout. Et ce jour-là, on a décidé comme ça, au pied levé, d'organiser un job dating. C'est-à-dire de dire à ces jeunes, c'était juillet, il y avait beaucoup de jeunes en vacances, vous êtes rentrés, vous cherchez du travail, on fait venir des recruteurs. 8 personnes ont été recrutées ce jour-là. Des jeunes qui étaient en France, qui étaient venus, d'autres qui étaient revenus mais qui n'avaient pas encore trouvé de travail. Eh bien, il y a des recruteurs qui étaient là, qui avaient besoin de postes spécifiques qu'ils ne trouvent pas à la Martinique, qui ont recruté des ingénieurs agronomes, des spécialistes de l'électricité, etc. Il y avait EDF qui était présent, le groupe GBH, le Pôle emploi était là, etc. Et à partir de cette enquête qu'on a réalisée, pour bien connaître les intentions des gens, ce qu'ils reprochent à la Martinique, ce qu'ils aimeraient retrouver et tout, eh bien, on a bâti un programme en 20 fiches actions. On dit, voilà ce que nous proposons pour repeupler la Martinique. Ce n'est pas exhaustif, hein, peut-être qu'il y a encore 10 bonnes idées qui vont arriver derrière, mais déjà avec ces 20-là, on a de quoi faire et de quoi travailler. Donc j'ai présenté ce dossier à la ministre de l'Outre-mer, qui a trouvé ça très bien, en me disant c'est rare que des élus viennent avec des projets. On n'est pas en mode doléance uniquement. Et le projet est chiffré, budgété, tout est dedans. Et elle m'a dit, je lui ai dit, si vous me donnez un référent déjà, un préfigurateur, quelqu'un qu'on charge de cette mission pour commencer à mettre en œuvre les projets, je suis preneuse et on y va. Parce que moi, je suis sénatrice, c'est ma collaboratrice qui m'aide sur ce projet-là. On n'a pas que ça à faire. On a des lois toute la journée, on a du travail à reprendre. Donc il faut absolument que j'ai quelqu'un qui soit dédié à ça. Et elle m'a dit OK, qu'elle était d'accord et on devrait organiser ça là, dans ce trimestre-là.
Est-ce que le pays ne manque pas aussi d'attractivité ?
Absolument. Ou alors le pays a de l'attractivité cachée. de l'attractivité cachée, on ne montre pas d'assez belles choses, on ne montre pas d'assez belles réussites.
Il manque d'utopie.
Exactement. Il manque de...
Qu'est-ce qui fait rêver un jeune en Martinique?
Voilà. Il manque d'amour du pays, de fierté. Il manque aussi que tout le monde joue le jeu et qu'on arrête uniquement de parler de nous quand il y a une grève, des sargasses, un cyclone, etc. C'est mon combat avec France Télévisions pour leur dire « Venez en Martinique, faites des reportages, montrez des jeunes qui ont monté leur boîte dans des choses extrêmement sophistiquées, qui travaillent, montrez le bon côté de la Martinique, qu'on a besoin de touristes, qu'on a besoin d'investissements touristiques, qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle développement, il faut qu'on parle valeur ajoutée, et pas seulement infrastructure, des routes, on en a. Ça, c'est bon. La partie de l'infrastructure, c'est bon. On a de l'eau, on a de la lumière. Bon, il y a des petites choses à compléter, mais l'essentiel a été fait par nos aînés ces 50 dernières années. Maintenant, on a besoin, allez, il faut oser le mot, de faire de l'argent, que nos jeunes travaillent, qu'ils puissent gagner de l'argent, qu'il y ait de la valeur ajoutée, de l'activité, dans des domaines qui sont peut-être même pas, qui sont encore enfouis, hein, qu'on ne connaît même pas.
On écoute un peu de musique.
Avec plaisir. On va écouter un morceau. Allez, je vais te faire plaisir, Ignace, tu vas aimer. On va écouter un morceau de La Fania All Stars.
Thank you. 21h-23h avec Ignace.
Il nous reste un peu de temps à passer avec Catherine Concorde qui est notre invitée ce soir dans le salon privé jusqu'à 23h. Catherine, parmi tes projets, je disais tout à l'heure que tu étais femme politique, mais que tu étais d'abord femme. La mode, la féminité, tout ça, ça n'est pas étranger à toi. Et je crois que tu as un projet dans ce sens-là.
Je crois en une politique de grands événements à la Martinique. On a ce problème démographique, autrement dit, on a moins de bouches à nourrir, moins de bouches pour vendre notre production. Et pour sauver cette production, ça va passer par des efforts en matière de tourisme. On est déjà à 600 000 touristes de séjour, il faut monter encore. Je crois qu'on a encore besoin de 2-3 bons hôtels à la Martinique. Enfin, je dis hôtel hébergement, puisque maintenant la tendance n'est plus aux grands hôtels, mais aux petits meublés, aux résidences touristiques, etc. On a besoin de ça. Donc, on a besoin aussi d'une politique de grands événements. À la Martinique, j'avais travaillé à ce projet-là dans le cadre du plan de relance 2 que nous avions proposé, mais que malheureusement, on n'a pas eu le temps de mettre en œuvre. La Martinique a besoin de ça. Ça va permettre d'avoir une belle visibilité du pays, de donner au pays des lettres de noblesse en matière d'attractivité. Je rêve de festival musical.
Le problème, c'est que tout le monde en rêve, personne ne le fait.
Eh bien, on va le faire. Mais il faut de la volonté, il faut de l'abnégation. Je me dis que la Martinique pourrait être une place centrale de festival musical une place forte de la Caraïbe. Autrement dit, un festival où chaque année, on retrouve toutes les musiques de la Caraïbe. Toutes les musiques de la Caraïbe. Donc on deviendrait ce point central où à la fois on pourrait écouter des musiques de Cuba, des musiques de la Jamaïque, etc. Il y a énorme, un éventail extraordinaire, aussi bien dans le très classique traditionnel que sur des jeunes aujourd'hui qui portent des musiques qui sont de notre rythme. La Martinique doit être cette place forte-là. On a les moyens de pouvoir héberger en nous un festival de grande dimension musicale de Cuba à Trinidad, qui se retrouve ici. Je crois dans cette politique de grands événements. C'est de l'apport de population, c'est de l'apport d'attractivité, c'est de l'apport de devises, c'est de l'apport de valeur ajoutée. Ce sont des hôtels qui se remplissent. On a besoin d'une politique de grands événements. On pourrait avoir un grand événement culturel, sportif, à la Martinique, environ chaque mois. Environ chaque mois. J'avais rencontré à l'époque le président de la Fédération française de pétanque. La pétanque, on a l'impression que c'est un petit jeu de petits pépés, on se réunit sur une place et puis on tape des boules, non? Aujourd'hui, la pétanque est devenue l'activité qui a le plus de licenciés sportifs. On ne s'en rend pas compte. Hein. On peut croire que c'est le foot, non? La pétanque. Et quand il se déplace comme ça, qu'il y a un championnat de France dans une ville, etc., c'est 2-3 000 personnes qui partent. 2-3 000 personnes avec leurs accompagnateurs, etc. C'est beaucoup de gens. Pourquoi la Martinique ne pourrait pas héberger un grand temps de la pétanque ici? Imaginez, on fait ça hors saison, en septembre par exemple. On pourrait avoir, j'en avais discuté avec Alfred Desfontis à l'époque, qui était très content. Il continue de le faire, mais avec ses petits moyens. Un grand moment du vélo populaire à la Martinique. Il a aujourd'hui 200-300 cyclistes qui viennent chaque année au mois de novembre en Martinique, prennent leur vélo dans leur bagage et ils viennent faire des courses grand public pendant 3 jours au moment, il me semble que c'est à la Toussaint ou au novembre, au mois de novembre. Et de plus en plus, le groupe grossit. Pourquoi ne pas avoir un grand mot? On a aujourd'hui 5 compagnies aériennes. On a des compagnies aériennes qui viennent directement des États-Unis. On a des compagnies aériennes qui viennent directement d'Allemagne. Aujourd'hui, on va ouvrir des lignes avec le Brésil, avec l'Argentine, etc. On devrait avoir des grands événements chaque année et que la puissance publique puisse abonder des lignes pour aider. Alfred Desfontis fait une opération de tourisme, de cyclisme populaire en faisant venir ici. Eh bien, on pourrait avoir une grande rencontre du cyclisme populaire à la Martinique. En saison touristique, on remplit des hôtels, on donne de l'activité, chaque personne achète une bouteille d'eau. On ne se rend pas compte comment la machine prend et qu'on se remet à consommer parce qu'on a un apport de clientèle particulier. Et la puissance publique devrait chaque année dédier 1, 2, 3 millions à organiser ces grands événements, à abonder la bonne volonté de certains nombres d'initiateurs, parce que c'est ça qui freine l'initiative. Hein. Moi, quand j'ai fait le Grand Chawa, la première année, j'ai eu 20% seulement de fonds publics, tout le reste, mais j'ai pu avoir les sponsoring parce que je m'adresse à des copains. Je n'aurais pas eu ce réseau de relations où je peux prendre mon téléphone, appeler un tel, donne-moi un coup de main sur tel truc, on a besoin de tel truc, etc. Tout s'est fait via un réseau de copains. Je n'ai pas eu à aller supplier des gens que je ne connais pas. Je les ai embarqués dans mon truc et ils m'ont dit, bon, tu veux combien? Tiens, c'était vraiment amical. Comment faire pour que la puissance publique puisse dire, c'est un véritable enjeu d'activité, d'attractivité, de développement économique? Comment on fait pour susciter, mais que les frères Pastel puissent dire, eh bien, on fait un grand festival de salsa à la Martinique chaque année, mais pour Paniagra, t'étais tout pour dire, côté moi, quand il prend l'argent, tu as la bonne volonté, tu as le réseau, la puissance publique vient t'aider, on est dans un partenariat gagnant-gagnant, comme Boutan fait pour le festival de Big in Jazz, mais là, on fait venir des gens, des télés sont là, montre la Martinique, regardez le petit festival de surf qui s'est fait à Basse-Pointe. On a vu que dans plus d'une centaine de pays, on suivait via la télé ce hotspot de surf à Basse-Pointe. Qui montait qu'à monter sur Basse-Pointe? Qui penserait que demain, dans le monde entier, on regarde la Martinique via une petite ville du Nord, personne pas qu'à aller là, presque personne. Là, on monte Basse-Pointe. Mais Basse-Pointe, mais pas un endroit où on va tous les jours. Pas un endroit où on va tous les jours. Eh bien, que via Basse-Pointe, via une organisation, d'une association de jeunes qui se sont mouillés le maillot, c'est le cas de le dire, ils ont fait venir des pratiquants du surf ici, et Basse-Pointe, la Martinique, est devenue pendant la capitale mondiale du surf, avec des répercussions aux États-Unis, etc. J'ai pris l'avion une fois avec des surfeurs qui venaient pour ce grand moment, ce championnat de surf. Mais il fallait voir, ils étaient capables d'aller anglais, espagnol. Je parlais avec eux dans le hall. Ils me disent, oui, on va à la Martinique. vous avez un super truc là, les vagues sont super. J'étais super fière en me disant, voilà, une initiative de jeunes, il faut les aider, il faut les accompagner, il faut fluidifier le truc. Et là, je me suis dit que j'étais à Paris et puis je vois Fashion Week de Paris. Curieuse comme je suis, je m'arrête, je vois des voitures qui circulent, Fashion Week. J'essaie de savoir c'est quoi. Bon, je sais c'est quoi un peu la Fashion Week. Je rentre dans le truc, je me renseigne et je me dis, mais tiens, mais il y a une super production, une belle créativité à la Martinique. Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires. Il y a des créateurs qui ont joué du plaque sur rue dans le monde, à Paris et tout, qui font des défilés partout. Comment on fait pour avoir notre Fashion Week? Qui est-ce qui est chez nous? Et je me suis lancée dans l'aventure. Donc là, on est au stade d'avoir des contacts avec la Chambre des métiers. Mais normalement, décembre 2019, avec quelques copines, quelques copains, on s'est réunis. On ne sait pas coudre, hein, ce n'est pas notre métier, mais on s'est dit, on donne une énergie et on essaye de faire monter le pays en devenant un grand moment de mode. Et je me suis rendue à la Fédération française de la mode. Je suis arrivée, bonjour monsieur, voilà, je suis venue vous parler. Et le gars était content et il m'a dit, vous devriez être le pôle caribéen de la mode. Prenez l'option Caraïbe, un peu comme vous les frères Pastel avaient fait avec la musique. Prenez l'option Caraïbe, devenez une place forte de la mode dans la Caraïbe. Faites ça. Et là, on est en train de travailler, on doit rencontrer les locaux bientôt. Normalement, si tout va bien, ça devrait avoir lieu en décembre 2019. Et qu'est-ce que le monsieur me dit, qu'un Français qui est venu en Martinique, je crois, une fois en vacances, il me dit... La musique en Martinique, c'est un truc important. Vous avez une super belle musique. Mettez la musique dans votre manifestation. Vendez votre musique en même temps que la mode. Ça va ensemble. Faites ça. Voilà.
Pourquoi on ne fait pas vendre la Martinique par nos talents? Nos talents à l'international. On a des Martiniquais qui sont connus, oui, et qui font de grandes choses. Mm-hmm. Pourquoi ils ne sont pas nos hommes sandwich?
Il y a des tentatives, il y a ce qu'on appelle les ambassadeurs, mais c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Et puis, il faut qu'on développe cette fierté.
Il faut faire les bons choix aussi.
Il faut faire les bons choix et puis les accompagner. Les accompagner, ça demande une politique de communication intensive, être partout où ils sont. Aujourd'hui, avec un smartphone, on peut parler au monde entier. Donc, il faut oser ce genre de démarche. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aimer son pays et être prêt à tout pour lui. Voilà.
La politique touristique menée aujourd'hui à la CTM te convient?
Je trouve qu'on joue petit bras, puisque les budgets sont ridicules. Appelons un chat un chat. Lorsque vous mettez 12 millions pour faire fonctionner le CMT, que l'essentiel de ces 12 millions passe pour payer les frais de fonctionnement, loyer, salaire, à New York, à Paris, en Martinique, etc. Et qu'il reste très peu d'argent pour la promotion, mais qu'il faut quand même aller jouer dans la cour des grands avec des gens qui massivement investissent dans les politiques de promotion. Moi, je rêve de films sur la Martinique en permanence sur TF1, avoir des moyens démultipliés. Non, on joue petit bras, c'est pas... les budgets sont très en deçà de ce qu'il faudrait faire.
De ce côté de l'échiquier politique, le tourisme n'a jamais été une priorité.
Malheureusement, mais je crois que les choses sont en train de changer. Malheureusement, même moi, vous savez, dans mon parti, à un moment donné, le tourisme n'était pas la tasse de thé des hommes de gauche à la Martinique. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être qu'il y avait tellement de priorités du quotidien à régler auprès des Martiniquais qu'entre faire un hôtel et sauver un quartier de son insalubrité et tout, il y avait peut-être des choix cornéliens qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas hésiter, on a besoin de tourisme. Il faut y aller, il faut donner les moyens. Il y a les fonds européens qui sont dédiés à ça, il faut les activer, il faut aller plus vite, plus massivement... Je répète, on joue petit bras.
Puis la concurrence est rude.
Oui, la concurrence est rude. On joue petit bras. On joue petit bras, hélas.
Et Karine m'a l'air de se battre quand même. Hein. Elle fait ce qu'elle peut, avec le peu de moyens qu'elle a.
Oui, mais souvent, il faut qu'elle pleure pour que le grand patron lui cède 1 ou 2 millions de plus. Non, on joue petit bras. Un budget comme le CMT, c'est quelque chose qui devait monter au moins à 20 millions d'euros. Avoir des politiques de promotion, des films que l'on voit sur TF1 en prime time, des affiches dans le métro, pas des petits bouts de campagne comme ça, mais quelque chose d'intensif, de régulier.
Là-dessus, la Guadeloupe est beaucoup plus dynamique.
Oui, je constate que la Guadeloupe va à fond. Va à fond aujourd'hui, quand je suis à Paris, je vois plus de films sur la Guadeloupe que de films sur la Martinique. Ouais. Mais bon, on va dire que ce sont des choix politiques. Il faut respecter la volonté du peuple.
Alors... pour la prochaine élection à la territoriale, Ensemble pour une Martinique nouvelle, Ça te cafille les éponges autres?
Oui, quand on est en politique, il faut toujours être prêt. Avoir des belles idées, porter en soi des valeurs, des programmes intéressants. Ce n'est pas rester dans son fauteuil à la maison. Il faut avoir les moyens de pouvoir exprimer, mettre en œuvre et forcément...
L'union tient bon?
L'union tient bon, malgré les soubresauts. Vous savez, quand il y a des fêtes, les choses ne sont plus aussi solides. Tout le monde se regarde, tout le monde... Il y a des introspections parfois douloureuses. Oui, l'union tient bon. Il y a une dizaine de mouvements aujourd'hui toujours réunis autour de PMN. On a perdu très peu de monde, voire presque personne, dehors du Parti Socialiste qui est parti. Voilà, l'essentiel est là, l'essentiel est tenu. Il y a quand même des gens qui ont d'excellentes valeurs politiques, qui savent ce dont on parle, qui savent ce que politique veut dire, engagement politique, qui ne sont pas simplement des opportunistes. Et ça, ça a du poids. Bon, les choses s'organisent, se maintiennent.
Un rapprochement avec Nilor est exclu.
Mais pour l'instant, Nilor, je ne sais pas ce qu'il fait.
Ils sont partis.
Oui, mais sur quelle base, sur quel... Moi, vous savez, je fais de la politique autour de valeurs, de cap et de perspectives. Hein. Là, pour l'instant, j'ai entendu dire qu'il monte un parti, mais c'est quoi sa feuille de route, je ne sais pas. On saura peut-être.
On saura peut-être. Catherine, nous avons passé un excellent moment ensemble.
Il a fini?
Ben, on peut continuer si tu veux. On peut parler musique peut-être.
Oui.
On peut parler musique puisque tu es une férue de musique.
Ah oui. J'essaye d'aller partout, d'aller dans tous les concerts, dans les festivals. Ah. J'aime ça.
Tu sais que la Palooza.
Ah, excellente initiative. Très bien. J'ai eu l'occasion déjà de voir le propriétaire, Bébé, que tout le monde appelle Bébé.
Qui était mon invité la semaine dernière.
Ah, ben c'est bien. Eh bien, je l'ai félicité récemment et je ferai tout pour être là le 9. C'est quelqu'un qui est dans l'initiative permanente, c'est bien ce qu'il fait, c'est très bien. Je pense qu'on avait besoin d'une salle, d'une scène comme ça. La Martinique, c'est un pays de plein air, on vit dehors, donc même s'il y a une petite pluie qui va tomber de temps en temps, on n'a qu'à sortir nos parapluies. Mais c'est une très très belle initiative et je pense qu'il va remplir souvent.
Je pense à une conseillère territoriale qui avait sorti en pleine plénière pour ceux qui veulent faire des concerts, parce qu'on se plaignait qu'il n'y ait pas de salle, de structure. Mais bon, on n'a qu'à faire des concerts dans les salles, comment ça s'appelle, dans les halls de sport.
Ouais. Enfin bref, on voit qu'elle ne fréquente pas les lieux de...
Elle que je n'ai jamais croisée nulle part.
Oui, exactement, que moi non plus je ne vois nulle part. Non, bon, c'est des gens d'un autre temps, c'est des gens qui ne sont pas ouverts, enfin bref. J'ai même presque pas envie de parler d'eux, tellement pour moi, ils appartiennent au passé.
L'avenir, c'est... Ouais, je commence à déconner, là.
L'avenir, tu disais? Tu disais?
Notre jeunesse, oui. Catherine,
oui.
Qu'en penses-tu? Parce qu'elle est souvent décriée.
Oui.
On relève tout ce qu'il y a de négatif autour d'elle. Et puis on oublie de mettre en valeur et en lumière ce qui le mérite.
Oui, c'est cette fierté, ce que les anglo-saxons, les barbadiens, etc. appellent the proudness. Être proud, comment dire, être fier. C'est ce qui nous manque, c'est-à-dire qu'on a trop tendance à mettre en valeur ce qui ne fonctionne pas. Comme si ailleurs, il n'y avait pas des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais on oublie de porter avec enthousiasme et bonheur tout ce qui est beau chez nous, tout ce qui fonctionne. Mais moi, j'en fais mon quotidien. Je poste toute la journée des photos de la Martinique. Là où on est d'ailleurs, j'ai repéré un très beau paysage que je vais, tout à l'heure photographier. Il y a des endroits magnifiques ici, il y a des très belles choses qui se font. France Antilles a pris l'habitude chaque semaine de mettre en valeur un jeune de Martinique qui réussit. Mais moi, je prends la page de France Antilles, je la mets sur les réseaux sociaux, j'encourage. Il faut qu'on arrête de parler de nous uniquement, nous pas bon, nég pas bon, aïe pas bon. Enfin bref, comme si ailleurs, il n'y avait pas des gens bien et puis des gens moins bien. Gardons ce qu'il y a de bien à la Martinique. On a un magnifique pays. J'ai l'habitude de dire que c'est le plus beau pays du monde, pas seulement pour ses paysages, mais cet art de vivre qu'on a, cette façon de faire la fête, cette convivialité qu'on a, cette façon de nous apostropher. On peut débarquer n'importe où, rencontrer un copain, l'appeler, hey, tel, mais t'es proche là, manque à Vigny, c'est pas donné à tout le monde de vivre tranquille, de faire un carnaval avec 50, 60 000 personnes et puis n'avoir à déplorer que 2-3 égratignures et puis un petit combat de temps en temps, mais y a pas 500 morts comme on entend ailleurs. Où tout le monde qui a couru vidéo en même temps, qui go chap, go répété, machin, le banquier, son client, le professeur et son élève. Cette forme de convivialité qu'on a, et j'ai l'impression qu'on ne s'en rend même pas compte de comment on vit bien. Alors, bien sûr, il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais je monte à Basse-Pointe régulièrement ces jours-ci parce que je vais aider mon amie Marie-Thérèse Casimirius qui a des élections le 10 mars prochain. Mais à chaque fois que je redescends, tiens, on me donne un carton, il y a de la papaye, il y a des ignames, il y a des trucs comme ça, quoi. Je leur dis merci beaucoup, mais on ne voit pas ça partout. On ne se rend pas compte, mais il y a ce petit temps de vivre, cette façon d'être, d'aller pendant les vacances s'asseoir chez Alger à la reprise, et puis on assis là, on est là, la lune est avec nous, on écoute un petit son, on mange, on rencontre deux, trois potes.
Tu es une épicurienne, toi.
Oui, je suis une épicurienne, et on a un pays qui appelle à être épicurienne. Donc profitons et arrêtons tout le temps de le peindre avec des couleurs sombres, de toujours mettre en valeur ce qui ne fonctionne pas, d'être devenu comme les Français, à râler tout le temps. On n'est jamais content de rien, ni du transport, ni de ceci. Toujours à nous plaindre, à mettre en valeur des choses négatives. Soyez optimiste.
Ah, puisque tu as parlé de transport, la décision de M. Marie-Jeanne de résilier le contrat de la CEMAF, pas CEMAF, de la CFTU, ton avis dessus?
Il est allé à la hache. Il ne faut pas oublier que Marie-Jeanne, il fait de la politique tout le temps. Donc, il ne faut pas oublier que la CFTU est une création PPM. 2004, c'est Eugène Chimie qui arrive à réunir les quatre villes autour d'un transport commun, à arrêter les taxico, Lamantin, etc., et à faire un vrai transport public subventionné, etc., pour qu'il y ait des heures de départ, qu'il y ait de la fréquence, et que même quand il y a trois personnes dans le bus, que le bus puisse partir. Ça a été une vraie révolution, le transport sur la CACEM. Donc, c'est une émanation PPMO, PMN, enfin bref, tous ceux qui étaient à la CACEM à cette époque. Il ne faut pas oublier, le président, c'est un membre du PPM, l'ancien secrétaire général du parti. Casser ça, c'est pour lui un petit plaisir, quoi. Donc, au lieu de s'asseoir autour d'une table, essayer de discuter, de calmer les syndicats.
Ils ont tiré sur la ficelle, quand même.
Oui, c'est comme partout. Il y a beaucoup d'endroits où il y a parfois des syndicats qui sont durs, mais je crois que la cause n'est pas désespérée. J'ai souvent fait des négociations à la CFTU à l'époque, parce que parfois leurs revendications portaient sur des problèmes de sécurité, d'agression dans les bus. Donc, comme j'étais chargée de la sécurité à Fort-de-France, il m'arrivait quand mon ami, ancien président de la CFTU, Alex Cipria, m'appelait à 5h du matin, me dit, bon, Catherine, si tu veux qu'il y ait des bus au carnaval, il faut que tu descendes tout de suite parce qu'ils veulent arrêter. Il y a eu des agressions hier, ils ont injurié des chauffeurs. Enfin bref, j'ai fait énormément de négociations CFTU avec Cambusi d'ailleurs et tout. Mais je crois qu'on a besoin de se parler plutôt que d'être dans la rupture, de casser le truc. On a besoin de se parler. Et souvent, quand il y avait ce genre de grève à l'époque à la région, Serge de Chimie montait au créneau, il laissait le début se faire entre syndicats parce qu'il faut quand même libérer la parole. Mais à un moment donné, eh bien, les grèves se terminaient à la région et souvent on signait protocole d'accord. Ça a été le cas pour les grèves de Docker, pour les beaucoup, beaucoup de grèves passées par la puissance publique parce qu'on arrivait à mettre les gens autour d'une table et même si c'était chaud, la raison revenait, l'implication des élus et tout. On arrivait à arrêter ces grèves-là et il m'est arrivé de passer deux jours, deux nuits à la direction du travail il y a quelques années. En fin d'année, j'ai vu le feu d'artifice du 30 décembre, je l'ai vu de la direction du travail. On avait une grosse grève avec Cambusi, etc. Mais j'ai appris à le connaître, à discuter avec lui, à calmer le jeu quand il fallait. Et puis au final, on arrivait à se parler, quoi. Par moments, nous, nous avons monté, nous avons fâché, par là, qu'à monter haut. Mais au final, on arrive toujours à trouver une manière de revenir à la table et de discuter. Bon, il a choisi de casser.
Comment ça va finir, ça?
Oh, je ne sais pas, mais ce n'est pas si simple de casser une DSP. Hein. Ce n'est pas simple. Et puis encore une fois, quand il dit qu'il reprend les choses en éterne et qu'il fera une régie, c'est le même personnel qui sera là. Donc les mêmes durs. Mais c'est même ces duos-là, on peut arriver à leur parler. Moi, je sais que quand je débarquais comme ça à la CFTU, quand j'arrivais au milieu très masculin avec des hommes, j'arrivais, bonjour messieurs, bon, une femme arrive, ça calme déjà le truc, il y en a qui me disaient, les chimies, oui, au cas, c'est bras, nous. Moi, je dis, pas du tout, mais la relation était différente, donc il faut user de tous les moyens. Ceux qui font les grèves, là, je les connais très bien, il m'arrivait beaucoup de discuter avec eux. Il faut, au contraire, au lieu d'être dans la rupture, dans la casse, dans cette façon extrême de gérer les choses, c'est ça ou bien manque à casser, au contraire, il faut être dans une relation où l'élu devient un peu le père, qu'il apaise la famille et qu'il joue son rôle de médiateur.
Cette fois, Catherine, on va se séparer.
D'accord, merci beaucoup, Inia, j'ai pas vu le temps passer.
C'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et puis, te souhaiter bon retour à Paris. Tu repars?
Oui, je repars là, dimanche, parce qu'on a la loi entreprise qui passe la semaine prochaine. Donc, j'ai beaucoup travaillé cette semaine à rédiger les amendements, à travailler. Et puis, là, maintenant, il faudra monter au créneau, intervenir, être très vigilant. Donc, on est parti pour de longues nuits. Généralement, on arrête à 1h30 du matin. De longues nuits, toute la semaine, ça va être comme ça. Les débats commencent mardi matin, donc je vais finir dès mon arrivée lundi dans la diffusion de mes amendements, leur soutien par mes collègues et tout. Et puis mardi, on est au combat.
Ben, voilà. Tu connais la maison maintenant, tu connais
très
le
bien.
Salon, tu viens quand tu veux.
Belle initiative, il faut supporter ça.
Tu es la bienvenue.
Merci.
Quant à vous qui nous avez écoutés depuis 21h, je vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, pour un autre salon privé à partir de 21h sur Fusion 95.3 et 103.2. Bonne nuit.